Bonsoir. Donc, nous avons débuté cette rencontre et j'espère faire venir les retardataires qui nous ont dit qu'ils viendraient écouter François Maton. Donc, voilà, nous allons les faire venir. Donc, je suis très heureux de recevoir François Maton qui publie ses livres chez POED. Et avec Le Bleu du Ciel, nous avons réalisé l'année dernière ce dictionnaire. Donc, je suis assez fier parce que c'était une collaboration entre François Maton. Alors, François Maton et écrivain et dessinateur, et j'insiste sur le et parce que pour lui, il va nous en parler, c'est quelque chose d'inséparable. Le dessin et l'écriture vont ensemble et c'est une démarche tout à fait intéressante et passionnante qu'il va nous développer dans quelques instants. Donc là, la particularité de ce livre dictionnaire, c'est que les dessins sont de François Maton, mais le texte n'est pas de François, mais de Mathieu Pott-Bonneville, qui est un jeune philosophe brillant, spécialiste de Foucault et quelqu'un de très engagé sur le terrain du social avec la revue Vacarme et qui aime bien bousculer un petit peu le quotidien, l'énerver, le remettre en jeu de façon aussi très ludique et très ironique. Et là, avec François Maton, ils se sont très bien trouvés sur cet ouvrage. Et bien sûr, le dernier ouvrage de François Maton paru chez POL, qui est son éditeur principal, 220 Satori Mortel. Là, c'est entièrement François Maton et il nous parlera aussi de ce livre lors de la rencontre. Donc, je lui passe de suite la parole. Peut-être qu'il précise cette conjonction écriture-dessin, écrivain et dessinateur, quelque chose, donc sa spécificité, ce n'est pas séparable, c'est ensemble. Et tout à l'heure, on en avait déjà discuté un petit peu lors de la vidéo. Un tourné chez Mola dans l'exposition. Et je crois qu'après, François Maton a préparé une petite projection de ses dessins qu'on va pouvoir voir. Et voilà, la rencontre pourra se poursuivre après avoir vu aussi ses réalisations. François.
Très bien. Et peut-être déjà expliquer comment j'ai rencontré Mathieu Pott-Bonneville. Je suis pas du tout philosophe. Et c'est par le biais en fait de la revue Vacarme que tu as évoqué que Suzanne Doppelt m'a invité, qui est poète et qui est photographe et publié aux éditions POL, m'a invité plus d'une fois à réaliser des choses singulières pour cette revue, dans laquelle travaille occasionnellement Mathieu Pott-Bonneville. Et donc, voilà, je lui disais toute mon admiration pour son talent de philosophe. C'est vraiment quelqu'un de brillant, faut l'entendre en conférence, il est pas ennuyeux du tout. Et par contre, je lui disais que bon, j'étais pas toujours à la hauteur pour lire ses textes, parce que bon, c'est parfois très, 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 très chargé. Et alors, du coup, il a senti, connaissant mes dessins, mes livres, que peut-être un texte un peu marginal, enfin tout à fait qui n'a rien à voir avec ses autres textes, pourrait m'intéresser. Donc il me l'a envoyé, il me l'a proposé. Et en effet, c'est quelque chose de vraiment atypique et singulier. Et là, le philosophe se révèle vraiment quelqu'un d'insaisissable, de déconnant. Et il y a une espèce de jubilation dans ce texte très condensé. Alors, tu n'as pas expliqué qu'il s'agit en fait d'un dictionnaire, plus ou moins. Au départ, ce n'était pas un dictionnaire, mais il s'agit en fait de mots, de définitions, de mots.
Je montre un petit peu. Vous avez là, à chaque fois donc le mot, la définition très très courte. Donc, ce sont toujours des propositions sous forme d'aphorismes ou de choses de récits, mais très très bref. Donc, agrémenté, combiné avec des réactions et des dessins de François.
Voilà. Alors là, je vous montre la couverture, par exemple. En découvrant ces textes-là, ces définitions, j'étais confronté à quelque chose de vraiment pour moi troublant, parce que ça me faisait rire et je ne comprenais pas pourquoi je riais, parce que j'avais l'impression que le sens m'échappait. Et alors, il m'est arrivé de rire à retardement, par exemple, le soir en couchant. J'ai compris une espèce d'astuce cachée dans le texte. Et donc, l'ensemble Pour lui, enfin, attendez, je vais plutôt que de parler dans le vide, je lui ai demandé, comme il n'est pas là ce soir, je lui ai demandé si il pouvait faire une présentation rapide. Voilà, alors je vais lire en diagonale un peu des choses qui seront un peu plus précises que ce que je pourrais dire. Et alors donc, les définitions du dictionnaire se sont tricotées. Alors déjà, l'aspect tricotage me plaît beaucoup. Moi, en tant que dessinateur, je tricote pas mal avec des éléments très, très différents, comme vous allez voir, au confluent de plusieurs séries d'événements, de ruminations et de goûts. Il y avait le désir d'écrire moins, d'écrire le moins possible. Ça, c'est une chose qui me plaît. Aujourd'hui, on est envahi par une quantité, un flux de textes et d'images. C'est un peu parfois la nausée. Là, l'idée d'écrire de façon un peu concentrée me semblait juste voilà, par rapport à la situation, l'inflation de blabla, etc. Essayer de dire des choses en peu de mots. Voilà, ramasser le plus d'effets possible dans le volume le plus restreint. Bon, ça c'est une bonne chose. En tant que philosophe, évidemment, il pensait aux aphorismes de Nietzsche. Mais alors, il dit avec humour qu'il ne s'agit pas... Non, parce que le philosophe au marteau parle de dynamite et lui dit... Enfin, en comparaison, il s'agirait plutôt de pétard mouillé ou de claquement nerveux de papier bulle. Vous voyez, des petites attaques. Et ça, j'ai senti, en le lisant immédiatement, qu'en effet, c'était écrit par quelqu'un de très nerveux, nerveux. C'était écrit dans un état de tension, voilà, et ça me parle. J'aime beaucoup les dessins qui sont chargés, évidemment. Et voilà. Et je poursuis. Voilà. Et alors, ce qu'il faut comprendre, parce que c'est pas évident. Il s'agit avant tout d'un dictionnaire, mais d'un dictionnaire dissimulé, masqué. En fait, au départ, ces définitions étaient égrenées sur Facebook. Comme toute chose inscrite sur Facebook, il s'agit un peu d'évoquer sa vie, enfin, de se défouler, etc. Et lui, évidemment, Lucide, avait l'expérience de récits autobiographiques qu'on regrette le lendemain parce qu'on trouve qu'on s'est trop livré, parce que, etc. Et pour éviter ça, cette gêne, il s'est arrangé pour complexifier la chose et voilà, et ne pas parler de lui directement. Néanmoins, on le sent derrière, on sent un individu. Donc cette dimension de journal, moi, m'intéressait en tant que... j'ai également l'impression d'écrire une forme de journal à travers mes livres, et un journal un peu singulier, en effet. Voilà. Et alors l'aspect Facebook, mais c'est pour arriver au dessin. Là, j'étais un petit peu plus. C'est pas tellement mon univers. Je me méfie un peu. Je me sens pas tellement à l'aise là-dedans. Et voilà. Mais je me dis que ça allait être une occasion de réenvisager, enfin de poser un nouveau regard sur tout ça. Voilà, il y avait ça qui, j'étais pas en immédiate affinité avec ça, et avec beaucoup de références au milieu du travail, le travail, la pression du travail. Moi, je ne travaille pas, je suis pas salarié, je j'ai pas de cours à préparer, de copies à la corriger, etc., etc. Là, il y a beaucoup de pression, enfin d'évocation de situations qu'on connaît tous, enfin au quotidien, des situations difficiles avec les collègues, etc. Ça, c'est une chose que je connais peu, c'est pas mon expérience, mais je me suis dit que ça allait être une excellente occasion de voilà. Et donc, comment j'ai procédé pour associer des dessins à ces définitions? Eh bien, je ne me suis pas ennuyé. Est-ce que ça, c'est prudent? Alors voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on le voit. Voilà, vous verriez mieux. Alors là, c'est une photo de la première définition du livre, accès, fièvre contemporaine. Donc, je ne sais pas si vous saisissez de quoi il s'agit. Moi, je suis jamais sûr de bien comprendre. Mais là, en l'occurrence, je pense que l'accès, c'est l'accès Internet qui constitue une certaine... fièvre, en effet, pour nous tous. Voilà. Ah, il ne faudrait pas que ça... Voyez. Donc, l'idée, c'était évidemment pas d'illustrer. Il ne s'agissait pas de faire comment on appelle ça, un dictionnaire illustré. Et il ne s'agissait pas non plus de proposer des dessins qui offrent la solution à des énigmes qui seraient celles des phrases. Et donc, il ne s'agit pas de rébus. Et en toute liberté, donc, j'ai associé des éléments piqués sur Internet. Voilà. Alors, comment je m'y suis pris, si ça vous intéresse, enfin, la petite méthode, c'est en fait, j'ai fait une liste de tous de tous les thèmes récurrents du livre, une liste donc, et je les ai entrés, j'ai entré chacun des mots dans Google Images, et les premières choses qui apparaissaient, ce sont des photos, je m'en suis inspiré.
Alors, je dois rajouter qu'il y a, bon, il y a des jeux de mots des fois un peu faciles, il y a des choses des fois pas complètement hilarantes, oui, il mélange beaucoup la psychanalyse, des problèmes de médicaments, justement des situations que l'on connaît tous au quotidien, qui est comme tu disais, énervante. Et donc, il y a ce côté court-circuit et déflagration dont tu parlais très bien tout à l'heure.
Oui. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très risqué et courageux de sa part, osé. On sait bien que, par exemple, le calembour a mauvaise presse. Et là, s'autoriser des astuces comme ça qui nous viennent dans certaines situations, par exemple dans le métro, les noter et tenter de les assumer. En dehors du contexte, et bon, voilà, je trouve ça pas mal. Puis le fait que ça ne respecte pas une sorte de bon goût entendu, voilà, ni trop ceci, très français, tout. Hein. Et voilà, je trouve que c'était une force de ce texte. Hein. Voilà, par exemple, à un moment donné, un mot, c'est déprimante. Le mot déprimante, qu'est-ce qu'une déprimante? C'est non, enfin déprimante, ça imprime toujours pas. Je trouve ça, vous faites, ça parle tout de suite. Donc, j'ai cherché à dessiner des imprimantes. J'ai dessiné celles que j'utilise, puis j'étais en chercher d'autres sur Internet. Alors, Pinocchio, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Là, il y a un monte-charge, enfin, non, un truc là, un diable, et etc. Le papier recyclé, j'imagine. Bon, voilà. Il y a un tas d'associations qui se font tout à fait de façon très, très involontaire, hein, parce que je cumule. Et là, il ne s'agit pas, vous avez compris, hein, il ne s'agit pas de pages du livre, mais ce sont les documents qui ont préexisté aux pages. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, après, j'ai recomposé à partir de ces éléments-là. Et donc, voilà, il y a tout un tas de choses qui étaient potentiellement en rapport avec le texte de Mathieu Pott-Bonneville. Alors, ça donne naissance à des planches qui se sont construites comme ça, tout à fait involontairement, où sont accumulées des informations très diverses, mais je vous dis liées quand même au niveau des thématiques à ce qui est présent dans le livre. Et voilà, alors on voit bien qu'il y a des éléments un peu logo qui évoquent le graphisme un peu d'Internet, et puis des choses qui n'ont rien à voir. Enfin, il y a un méli-mélo de choses. Si c'était un collage photo, je pense que ça serait très moche. Voilà, alors le dessin permet une respiration et une continuité dans la diversité, assez simplement, je sais. Et puis il y a du coup le fait que bon, c'est montré malgré tout. Donc voilà, j'étais bien conscient que ça allait construire, parce qu'on peut considérer ça comme des éléments, enfin un alphabet, quoi, des lettres qui vont articuler si on les associe il y a une combinatoire possible. Et en vis-à-vis avec le texte, évidemment, ça allait fourmiller de sens. Et plutôt du côté un peu de la blague, parce que c'est comme ça. Là, je suis un peu crispé, mais voilà. Bon. Voilà, des choses diverses. Bon. Alors, attendez, oui, non. Alors ça brasse, vous le voyez, ça brasse très 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 large. Hein. Vraiment, il y a tout, Superman, personnages préhistoriques, des choses comme ça. Cette façon de concevoir le dessin comme une écriture ou l'écriture comme le dessin, c'est pas nouveau évidemment. Et donc là, j'ai retrouvé un codex qui vient de mexicain, je crois. Vous voyez là, il n'y a pas d'alphabet, mais on sent bien que ça raconte quelque chose. Ça, c'est une chose qui m'intéresse. Voilà. Alors pour vous montrer un petit peu plus concrètement comment j'ai opéré, donc ces dessins, je vous explique comment je les ai réalisés. Ils sont accumulés comme ça. Et après, j'ai été rechercher des éléments qui pouvaient correspondre aux définitions. Alors là, vous voyez rapidement, enfin, ça pourrait être un test. Essayez de mémoriser tout ce qu'il y a dans la planche. Et hop, ce que vous voyez dans la planche suivante. Voilà. Ça raconte un petit peu plus précisément, enfin ça dit une situation un peu plus précise.
Là, on a l'impression que tu rajoutes une histoire déjà aux définitions de Mathieu. Il y a quand même un vrai dialogue.
Oui, c'est ça. Je me suis évidemment approprié très 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 librement les récits, les micro-récits qui étaient cachés dans ces définitions. Et voilà. Alors du coup, des fois le dessin n'est pas associé immédiatement à la définition, enfin au mot. Il y a des jeux vis-à-vis. Enfin, ça circule un peu très très librement dans tous les sens. Et en effet, ça raconte parfois, sur le plan du dessin, des choses parallèles à ce que dit le texte. Et puis ça crée des rencontres qui se font comme ça, plus ou moins volontairement. Il voulait quand même que je mette un petit peu de nana, des petites minettes. Alors voilà, je me suis dit que là, c'était l'occasion. Il faudrait lire les définitions qui correspondent, parce que... Mais... Voilà, alors ça, c'est une page. Pour le coup, il n'y a qu'un mot, une phrase. Mais perlaboration, il me semble que c'est un terme psychanalytique. La définition couper, décoller m'amusait parce que c'est un peu comme ça que je procède au niveau du dessin, si on veut, enfin dans ce cadre-là, parce que sinon par ailleurs c'est pas du tout comme ça que je fais, mais il y a un jeu un peu de collage, de montage, et le fait de décoller, c'est pas mal. J'aime beaucoup décoller, je suis très je consomme beaucoup de choses qui me permettent de décoller. Et voilà. Je trouve qu'on ne décolle pas tellement au quotidien. Mais lui, justement, c'est quelqu'un qui est très responsable, engagé. Enfin, il a plein. Et malgré tout, voilà, il se défoule en marge très fort.
Une petite parenthèse, il y a beaucoup de jeux de mots à partir de la psychanalyse. Donc c'est un terrain sur lequel tu as bien aimé rebondir.
Ben, j'avoue que c'est un terrain que je connais très peu, oui, sûrement. Non, en tout cas, le désir. Moi, je résumerai la psychanalyse au désir et à la mort. Donc là, en effet, ça me va parce que c'est. Mais alors là, précisément, regardez la prochaine définition, c'est celle de mystique. Mystique, donc M, Y, donc l'orthographe ne varie pas pour le coup, mais la définition est assez drôle, c'est mystique vis cruciforme. Alors, il me fallait illustrer où ça, enfin, c'était pas facile, et donc vous voyez ce que ça donne finalement. J'ai proposé ça parce que une vis cruciforme, hein, vous voyez de quoi il s'agit. Donc j'ai un peu décliné les éléments qui peuvent évoquer et le tournevis, etc. Et les croix, les combinaisons. Donc vous avez compris un peu le principe. Hein. Voilà. Alors,
sur le, alors Donc là, nous étions sur le dictionnaire. Je vois qu'il y a aussi des dessins qui font partie du dernier livre de François chez POL, hein, 220 Satori Mortem. Donc tu peux nous dire un mot sur ce livre et nous montrer quelques planches ?
D'accord, oui. Le titre de ce livre, c'est 220 Satori Mortel. Et alors, il me faut expliquer ce qu'est le Satori, car ce n'est pas évident, beaucoup moins que je l'imaginais. Moi, c'est un terme qui m'est assez familier. J'aurais pu parler plutôt d'épiphanie. Ça aurait résonné de façon plus. Mais il se trouve que j'ai eu l'expérience de la pratique de la méditation japonaise, le zazen. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à tout ça, mais j'ai surtout pratiqué, c'est-à-dire pratiqué avec le corps. Il s'agit d'un engagement corporel et un engagement au niveau de la respiration, etc. Donc, une expérience qui vise une sorte de dépouillement ou de laisser filer les pensées, les émotions et toutes les choses qui nous traversent. Voilà. Et mon expérience est que en fait, parce que ce qui est le couronnement en quelque sorte, mais qui ne doit pas être espéré ou attendu de cette pratique, c'est l'obtention entre guillemets, parce que plus personne n'est là pour obtenir quoi que ce soit, mais l'événement du Satori, qui est une chose qui se produit curieusement et qui fait que le sujet se sent débarrassé de tout le poids qui constituait jusqu'alors l'idée qu'il s'était fait de lui-même et qui constitue un filtre entre soit la perception, le regard et la chose observée. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était des expériences comme ça d'ouverture qu'on connaissait tous au quotidien. Et je voulais évoquer un certain nombre de situations relativement ordinaires, des situations qui sont un peu des situations un peu ambiguës, un peu complexes, un peu des situations de crise ou de micro-crise intérieure, ou de joie, ou qui crée une déstabilisation. À l'occasion de cette déstabilisation, on est amené à avoir un regard différent sur ce qu'on croyait connaître et un regard infiniment plus direct et plus... un regard allégé. Oui. On ne sait pas qu'on ne sait pas voir. Hein. Alors, quand ce serait l'heure d'y aller, mais qu'on n'y est pas du tout. Bon, quand on est dans une espèce un état comme ça de flottement, on peut réenvisager bien des choses. Alors que si on se précipite en toute confiance sur ce qu'on doit faire, hein, eh bien, on ne laisse pas de place à l'imprévu. Voilà. Et je suis ennuyé de ne pas parvenir à les faire défiler toutes. Clac, par exemple, si j'appuie. Non, si, voilà, j'ai rien dit. Donc vous voyez, on retrouve cette dimension, cette attention aux objets qui est présente aussi dans les... J'en ai dessiné beaucoup dans le dictionnaire. Les objets, la présence des objets est pour moi très, très, très précieuse. C'est un véritable secours.
Alors c'est une sorte de sentiment, c'est un moment de rupture où en même temps on se retrouve,
Le Satori, enfin le oui. Ça, oui. Oui, c'est curieux parce que y a une perte de soi. Une perte de soi, c'est-à-dire une perte d'un rapport en fait qui repose sur une illusion, un rapport à soi qui est dont on est mécontent au quotidien, hein, qu'on l'avoue ou pas. Mais un retour en fait à soi-même réellement. Dans le zen, on parle retourner à la maison, rentrer à la maison, enfin. Enfin, c'est le retour au bercail. Là, ça y est, je suis moi-même. Et je ne m'étais pas aperçu jusqu'alors que en fait, je vivais la vie d'un autre ou de qui je croyais être et que je n'étais pas en réalité. Donc, il y a une espèce de retrouvaille avec soi-même ou alors avec soi-même. avec la présence des choses, un sentiment de se mettre de se trouver à l'écoute et sur le même diapason que les choses qui nous entourent, que toutes choses, voilà, qui et sans ce, comme je disais, sans le filtre des commentaires intérieurs. Alors évidemment, il s'agit donc comme je vous l'ai dit, de situations qui peuvent être très sombres, et ce qui est plutôt pas une mauvaise nouvelle en fait. C'est que j'ai l'impression que quand on est mal et qu'on est de plus en plus mal, qu'on se retrouve comme ça glissant dans un, ce qui nous semble un abîme duquel on craint de ne pas sortir, pour finir, on peut toucher le fond. Il arrive qu'il y ait un fond et c'est le coup Alors, on remonte à la surface de l'eau. Hein, voilà. Alors donc, je me suis moi-même retrouvé dans des situations anxiogènes. Là, le mode de l'humour n'est pas du tout le même, hein, évidemment. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile de parler, je me rends compte. Hein. Quand à 3h du matin, tout faisait teint, on trouve à la nuit quelques parentés avec la mort. Donc les barques, voyons là, on voit quelqu'un qui en contre-jour, qui est sur une barque et qui actionne des rames. Quand au lieu de se défiler une fois de plus, on décide enfin d'aller y voir de plus près. Ça, c'est un véritable... Ça peut être l'ouverture, la rencontre avec quelque chose qui était une espèce de frayeur, qui nous hantait, qu'on ne voulait pas reconnaître, et qui décidait de beaucoup de notre comportement, enfin, qui influençait notre comportement. Et aller à la rencontre de ces démons, ça peut être libérateur en un sens.
Alors c'est une sorte d'expérience intérieure, mais sur des micro moment, en fin de compte, c'est sur des choses très très simples et très intimes.
Oui, vraiment, oui. Mais une intimité qui partagea par tous. Hein, bon, c'est le propre de l'intimité, en effet, peut-être. C'est ce qu'on a de. Oui. Donc, je pense qu'on s'y retrouve assez facilement, à moins d'avoir chassé de son esprit. Alors, on ne saurait dire si on est au bord du précipice ou si on a déjà sauté. Quand le spectacle de la tendresse dilate profondément les bronches. Quand ce qu'on croyait une menace se révèle une offrande. Quand vous jureriez que cette scène-là, vous l'avez déjà vue sous terre. Ok. Quand on est prêt à reconnaître qu'on a vraisemblablement tort, mais qu'on s'en fiche complètement. Ce sont des extraits qui sont pas liés, évidemment. Quand l'heure est à la philosophie et qu'on s'apprête tranquillement à casser le système. Quand on est si loin de chez soi qu'on a fini par l'oublier. J'aime beaucoup les ânes. On est nombreux à aimer les ânes, mais qu'est-ce qu'ils sont touchants dans leur solitude et leur courage à se tenir là, justement. Et ils sont parfois, c'est des animaux qui viennent de loin. Ils ont quitté leur pays. Une expérience, par exemple, qu'on a tous fait, plus ou moins, quand on a vécu un peu dans une grande maison ou chez des amis, dans une maison qu'on ne connaît pas forcément bien, quand on est couché dans son lit et qu'on entend soudainement craquer le plancher du grenier. Donc là, tout est possible. Oui, alors ça, par exemple, le simple fait d'entendre une latte du plancher craquer ou quelque chose peut briser justement cette espèce de monologue intérieur dans lequel on s'enferme inconsciemment et qui nous coupe du réel. Ça crée une interruption. C'est trois fois rien, ça crée une interruption, une petite surprise. Alors, on est peut-être inquiet, mais en attendant, il y a une espèce de joie. On se réveille, on se dit, ah, Et voilà, ça tout...
Et là, je crois que là, tu donnes une valeur au vivant. C'est quelque chose, des choses que maintenant dont on ne s'occupe plus vraiment. Peut-être qu'on ne
Ah oui.
s'écoute pas non plus. Tout d'un
Oui.
coup, tu t'arrêtes et tu donnes une dimension importante à des choses, effectivement, qu'on semblait ne plus connaître ou comprendre.
Oui.
Et peut-être pour reprendre la question de madame, par rapport à ton
Ah,
écriture
oui.
et à ton dessin, tu sais la même, c'est le même geste. Est-ce que tu y a une rupture entre les deux? Moi, je ne crois pas.
Non, alors, pour ce qui est de l'écriture, du fait d'écrire, c'est-à-dire, je considère vraiment que l'écriture, les mots, découlent du dessin. En tout cas, j'utilise le même feutre. Voilà, je ne suis pas dans une posture d'écrivain ou de poète qui est face à sa feuille blanche, etc. Ça m'embarrasse terriblement. Je trouve ça bien plus stimulant de partir d'un dessin, même très sommaire, plus vivant. Enfin, il y a une immédiateté voilà. Et ça, c'est important, oui, cette continuité qu'on voit là, parce que justement, je choisis de ne pas taper le texte. Et c'est comme ça que ça se construit. Alors, ce sont souvent des notes, enfin, des phrases qui me passent par la tête, qui sont très marginales. Alors ensuite, en effet, je recompose un peu pour que le livre ait une certaine cohérence au niveau du rythme. Mais quant à savoir si l'idée, la phrase me vient avant ou après, souvent après, parce que j'ai cette capacité de m'absorber dans la contemplation, enfin, d'entrer dans une image et de me projeter dans n'importe quelle image. Une carte postale, bon, ça m'ennuie un peu plus, mais une image singulière, c'est comme le plaisir qu'on a, par exemple, à se promener en ville et à apercevoir des intérieurs comme ça le soir. C'est un peu illuminé, on voit un bout de bibliothèque, etc., l'intimité des gens, et on se dit, tiens, qu'est-ce que ça serait de vivre là, voilà, avec ce voisinage-là, dans cette rue-là. Et très vite, il y a une vie qui est possible, qui se dessine pour le coup. Voilà, donc c'est souvent ça, quoi. Si j'avais vécu dans cette maison, quelle frayeur j'aurais eue ou quelle aventure j'aurais vécue. Mais parfois ce sont c'est plutôt le texte. Et alors là, le défi, c'est de trouver le dessin juste. Mais c'est souvent plus embarrassant, en fait, dans l'autre sens.
Naissons, il y a un petit temps de signature maintenant ou de rencontre informelle. Nous restons un petit peu ici et donc je vous souhaite une bonne soirée. Et merci François.
Merci.